avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue. C'est le 14 juillet, jour de fête nationale, mais on se fait la malle aujourd'hui. On largue les amarres, mais pas n'importe comment, tout seul. Et oui, le voyage en solitaire a le vent en poupe, il ne laisse jamais indifférent. Certains adorent, d'autres le redoutent, beaucoup hésitent aussi à sauter le pas, mais tout le monde a son avis sur la question. Voyager seul, c'est l'aventure avec un grand A. Et ceux qui y goûtent, eh bien, sont souvent comblés. Alors comment voler de ses propres ailes en faisant fi de ses peurs? On en parle aujourd'hui, les voisins, les voisines, avec deux voyageurs. Je commence avec l'homme qui est à ma gauche, un très grand spécialiste, le pape des routards, André Brugirou. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'ose dire le pape parce que vous avez vu tous les pays du monde, c'est possible ça?
Ça paraît gros, mais c'était mon rêve de départ. Non seulement les pays, mais les territoires. Ma façon de diviser, c'est...
Ça fait pays. Combien de pays alors
hein? Ça dépend comment on compte. Les Nations Unies sont 193. Plus 4 strapontins, c'est-à-dire 197 entités. Mmh. Et moi, j'ai divisé par zone administrative. Je donne un exemple. France-Corse, c'est un pays. Polynésie française, un territoire. Parce que même si on connaît bien la métropole, on ne connaît pas Tahiti.
Vous êtes donc, un grand géographe, en tout cas.
Donc, il y a à peu près 250 entités différentes dans le monde.
Que vous avez parcouru.
Et où j'ai été mettre les pieds, ça, c'est sans aucun doute.
50 ans, alors. 50 ans de voyage, 400 000 km autour du monde, tout ça en stop. Une seule émission ne suffira pas, mais on est très content de vous avoir avec nous, André Brugirou, et votre dernier livre, Le Monde et mon pays, aux éditions City, que vous avez écrit avec Jérôme Bourgine. Et en face de vous, une femme, Katia Astafiev, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous publiez un petit livre rose, ça s'appelle « Comment voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse ». C'est aux éditions du Trésor. Vous racontez plein d'anecdotes de voyages. Vous êtes partie au Vietnam, en Russie, en Mongolie, en Afrique du Sud, au Maroc, Burkina encore. Et c'est vraiment une succession de voyages. Vous avez fait des allers-retours, vous, c'est ça. Vous n'êtes pas fait des grands voyages comme ça au long cours. Vous travaillez à Nancy et vous faites vos allers-retours souvent toute seule.
Voilà, pas mal d'allers-retours. Et puis une année, là, j'avais pris une année sabbatique complète pour là vraiment avoir le temps de voyager sans faire justement ces allers-retours.
Moi c'est une vie sabbatique que j'ai.
Moi, je n'ai que 40 pays au compteur.
Enfin, il y a l'idée.
Vous nous direz en tout cas si ça a été une chance de voyager toute seule quand on est une femme. En tout cas, vous êtes revenue entière. Les voisins, les voisines, vos questions pour nos deux aventuriers solitaires au 33 1 84 22 71 71. Alors j'ai envie de commencer les messages Facebook avec Moussa de Dakar, parce que je trouve qu'il résume vraiment très bien le thème du jour. Il faut voyager seul, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. C'est comme une retraite spirituelle. On voyage seul pour se découvrir et on voyage en groupe pour découvrir le monde. Alors voilà sa remarque, je vous ferai réagir dessus. Il y a Nandi de Chennai en Inde qui nous dit « J'ai voyagé pour la première fois à 46 ans toute seule pour visiter la France. Eh bien ce moment a été vraiment énorme pour moi. J'ai été envoyée par l'Alliance française. Et ça m'a apporté un sentiment de liberté, de courage et une redécouverte de mon identité personnelle. Et il y a Bossian aussi qui nous dit « Moi, franchement, ça ne me tente pas trop de voyager seul. Je préfère être avec ma famille parce que je veux partager ces émotions et je trouve du coup le voyage plus enrichissant. » Vous continuez d'écrire au 33 1 84 22 71. Vous nous appelez et sur Facebook toujours. Oh yeah.
Milliards de voisins, c'est maintenant.
Votre vie est un roman, André Brugirou. Vous disiez une sorte d'année sabbatique tout au long de votre vie. Hein. Vous êtes vraiment connu de tous les voyageurs, en tout cas français, même dans le monde. Vous faites des conférences.
Dans le monde,
vous êtes connu.
J'ai mon premier livre, La Terre n'est qu'un seul pays, qui est en anglais, en espagnol. Donc ça, non.
Oui, vous êtes une figure hein, avec votre expérience de voyageur infatigable, 400 000 kilomètres, hein, je le disais, l'homme qui a visité tous les pays du monde.
Jamais à l'hôtel. Oui, oui, mais c'est facile à dire, mais moins facile à faire.
C'est un personnage. Et vous avez 78 ans, vous continuez de voyager?
C'est-à-dire que là, j'ai réalisé le rêve donc, d'aller dans tous les pays, tous les territoires. C'est fait. Alors, ce que j'ai fait récemment, c'est d'aller voir des trucs. Parce qu'en 1955, quand je suis parti, on n'avait pas les... J'ose plus en parler aux jeunes, ils me prennent pour l'homme de Cro-Magnon. Je leur dis, on n'avait pas le téléphone à la maison, pas la télé. Oh, comment vous faisiez ? Pas de guide de routard, pas d'avion en rédaction à l'époque, c'était les avions à hélice. Celui qui prenait l'avion en 1955, c'était un riche. Il n'y avait pas les bas coûts, les charters. Donc, il fallait un visa pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne. On ne peut plus s'imaginer ces années-là. Maintenant, on sait ce qu'on va voir avant. Et donc, j'ai raté un tas de trucs en voyageant depuis les années 50, parce que je n'avais aucun renseignement. Et donc, ça me chiffonne.
Vous partiez vraiment le nez au vent, et donc vous avez raté des choses à ce moment-là. Alors.
En 55, je ne vais pas jouer au vieux schnock que je suis, mais on ne parlait pas tour du monde, on reconstruisait encore le pays de la guerre. Ça passait à la tête de personne de parler tour du monde, de voyager. Les frontières étaient fermées. Je vous dis, il fallait un visa pour les pays autour de la France. Et donc, j'ai raté des trucs. Je passe à côté. Comme moi, j'ai une curiosité d'esprit insatiable aujourd'hui, comme à 17 ans d'ailleurs, je peux remplir un cahier de ce que j'aimerais encore voir. Seulement, il faut le souffle et l'envie derrière. Et là, je vais faire encore quelques trucs. J'ai encore un dernier gros projet, que les fameuses îles Chagos dans l'océan Indien.
Oui, j'ai découvert ça dans votre livre. Je ne connaissais pas du tout ces îles. Et donc, ça, ce sera votre prochain voyage.
Dernier.
En tout cas... Le dernier voyage.
Ah ouais, après, j'irai voir Saint-Pierre.
Saint-Pierre et Miquelon.
Oui, c'est déjà fait, ça.
D'accord. Alors, en tout cas, rien n'est impossible. C'est ce qu'on découvre dans votre livre, par exemple. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que partir seul, quand c'était tout au début de votre vie, ça a été la meilleure décision de votre vie, André Brugiroux ?
C'est-à-dire, moi, je suis pas... J'ai rien planifié, tout s'est enchaîné malgré moi. Je dis dans mon dernier livre, là, Le Monde et mon pays, que c'est une espèce de destin qui m'a tiré. Maintenant, au retour, à la fin, j'ai compris pourquoi. En deux mots, je suis né avant la guerre et j'ai voulu savoir inconsciemment, en rencontrant les hommes du monde entier, est-ce qu'un jour on va être capable d'établir la paix ? Grosse question. Ça a été ma démarche. Et pour ça, chacun voyage comme il veut. Moi, j'ai rien contre même ceux qui partent en voyage organisé. Moi, j'adore les voyages organisés, mais organisés par moi. Je suis assez grand. Mais seul, si on part avec la petite copine, on se marre bien. On n'a pas besoin des gens du pays. Puis quand on va au Japon, on regarde une japonaise, ça commence. Oh, tu m'aimes plus, t'as regardé la japonaise. Non, ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je ne suis pas un vrai voyageur, je suis un étudiant. J'ai voulu me concentrer sur mon étude.
Donc l'étude façon, d'aller étudier les autres
seul,
peuples
parce que
pour
seul,
pouvoir les rencontrer.
Pas par goût de solitude, parce que je vais peut-être faire sourire, mais la seule chose qui est nécessaire pour bien voyager, c'est d'aimer les gens. Non, mais moi, j'étais seul pour être disponible pour les rencontrer. C'est ça ma démarche.
D'accord, de ne pas être dans sa bulle quand on voyage
voilà.
À deux ou
j'étais
trois ou en famille.
Au milieu des gens, ça a été toute ma démarche, dans le but de connaître. J'ai voulu connaître les gens du monde entier. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas le kilométrage qui est là aussi, 400 000 bornes en stop et tout ça. Ce n'est pas l'exploit, mais ce qui m'intéressait, c'est le cœur de l'homme. Et j'ai voulu savoir, suite à mon enfance dans la guerre, est-ce qu'un jour les hommes vont être capables d'établir la paix ? C'était ma quête ou mon enquête.
Alors on va tout de suite prendre Fayala qui nous appelle de Conakry. Bonjour Fayala.
Conakry, il n'y a pas de nom.
Bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs de la Guinée-Conakry, notamment de la préfecture de Tigiri.
Eh ben merci pour ce message envoyé à la préfecture notamment. Alors là vous adressez au monde entier, vous aimez voyager seul, vous racontez-nous.
Oui, effectivement, j'aimais voyager seul. D'ailleurs... Mon dernier voyage seul date d'un mois, pour un trajet de Guinée-Mali, Ghana, via Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire. Alors, mais il faut dire que ça n'a pas été facile parce que d'abord, j'étais le seul Guinéen à bord d'un bus de 80 places. Ensuite, je me suis senti certainement stigmatisé d'une manière, s'il faut dire, hein, parce que je me sentais seul. Certainement, il y avait une méfiance vis-à-vis de ma nationalité. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est du fait de parcourir une telle distance seul. Ce qui démontre d'ailleurs une maturité, hein, cela m'a permis de découvrir d'autres horizons et au-delà de mon pays.
Alors vous avez voyagé seul, Fayala, mais là vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné des animaux. Je ne sais pas, on entend la mobilette qui passe, la chèvre aussi. Donc ça a été aussi donc, toute une réflexion sur vous-même, hein, c'est ça que vous nous dites. Vous avez gagné en force, en maturité.
Oui, en maturité effectivement et en expérience parce que... En fait, voyager, c'est aussi apprendre des choses, un enseignement en choses. Bref, c'est une expérience qui nous inspire. Et franchement, je m'en réjouis d'avoir fait un long trajet comme ça seul. et aux milliers des autres nationalités.
Merci beaucoup, Fayala, pour votre témoignage. Donc, il a traversé une bonne partie de l'Afrique. Il s'est senti un peu stigmatisé. Pour le moment, il se sentait un peu peut-être en climat de méfiance. Vous avez ressenti ça aussi, vous, par exemple, Katia, vous êtes une femme seule. Des fois, vous avez eu un peu, vous êtes senti mal à l'aise, peur dans les transports locaux, par exemple.
Alors, ça arrive honnêtement assez rarement. Hein. Généralement, ça se passe très très bien. Les gens sont toujours bienveillants. Surtout le fait de voir quelqu'un seul, ils ont plutôt tendance à vouloir aider, à rendre service. Donc, c'est honnêtement très très rare. Hein. Les problèmes, justement, c'est une question qui revient souvent. Mais vous n'avez pas peur? Qu'est-ce qui vous arrive? Notamment, est-ce que vous n'avez pas peur avec les hommes? Où est-ce qu'ils vont vous embarquer? Et c'est arrivé peut-être une ou deux fois en Inde, par exemple, hein, où effectivement, les femmes déjà ne sont pas très indépendantes, malheureusement. Donc j'ai une mauvaise expérience dans un bus indien avec des hommes assez collants, on va dire, un chauffeur pas sympathique, une traversée 400 km la nuit en pleine jungle, me dire bon, je vais pas descendre du bus, un bonhomme qui me harcèle un petit peu. Bon, finalement, ça s'est bien terminé. Mais voilà, je pense que ce n'est pas des choses qui doivent décourager les femmes à partir seules. Parce que
je voudrais juste dire un sujet. Dans les tours du monde en stop, j'en connais 5 à ma connaissance. Le premier qui a été fait juste avant le mien, c'est une jeune fille. Parce qu'on dit, est-ce qu'une jeune fille peut faire ça? Parce que c'est quand même plus il faut quand même le dire, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même plus délicat pour une femme de voyager seule que pour un homme. Il faut le dire. Mais le voyage n'est pas une question de sexe, c'est une question d'esprit.
L'état d'esprit.
Donc ça aussi, tout dépend de son attitude. Et sur les 5 voyages en stop autour du monde, il y a 2 filles.
Oui, oui. Oh, mais il y a pas mal de femmes qui voyagent seules, hein. Peut-être plus qu'on... Mais
on en a croisé plus souvent sur la route que ce qu'on croit.
Oui, il y en a plus qu'on le pense. Et même, parfois même plus de femmes que d'hommes, je ne sais pas. Peut-être
dans les années 60, autant des hippies en Inde, il y avait autant de jeunes femmes seules que de gars. Hein.
Oui, mais beaucoup. Après, bien sûr, il y a des attitudes à adopter, se renseigner un tout petit peu sur éventuellement les coutumes pour avoir une tenue adaptée, pour passer un peu plus inaperçu.
Il y a des pays où ça se passe bien pour les femmes. L'Inde, c'est un des pires. Les hommes, les Indiens, c'est vraiment écœurant.
Alors, comment voyager seule quand on est une femme ou un homme, même la réponse après Bachung qui reprend Gérard Manset, Le voyage en solitaire. Bon, c'est téléguidé, mais ça fait du bien quand même.
Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre.
Pourquoi partir seul en solitaire, donc en voyage, comme le dit Gérard Manset. André Brugirou, vous avez écrit Le Monde et Mon Pays aux éditions City. Et Katia Astafiev, Comment voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse aux éditions du Trésor. Il y a Hamson qui nous envoie une question sur Facebook. Combien de langues apprendre pour se sentir libre quand on veut faire des grands voyages comme vous, André Brugirou?
À mon avis, un gars qui dit qu'il a voyagé à travers le monde, qui parle que l'anglais, c'est pas un voyageur. C'est un rigolo d'américain. Point. Non, il y a trois langues. Oui, oui, non. Mais...
Alors, il y a, vous avez il y a en trois langues.
On
ne
peut pas faire le tour
langues?
Du monde sans connaître une base de trois langues. Bon, d'abord l'anglais qui écrase tout aujourd'hui, le français qui reste la deuxième langue malgré ce que pensent les Français, et l'espagnol. L'espagnol ne fait pas le tour, mais ça combine avec le portugais. Donc ces trois langues-là, si on a voyagé un peu seul et dans le monde, on va se débrouiller dans ces langues-là. Après, il n'y a pas d'autres langues qui peuvent... Le russe couvre 15 pays maintenant, c'est vrai. La Chine, c'est qu'un pays. Donc, mais il y a trois langues.
Alors, vous parlez du russe. Dans votre livre, dès le début, Katia Astafiev, avec votre nom, on imagine, vous avez de la famille.
Oui, oui. Enfin, j'avais un grand-père russe que je n'ai pas connu, mais j'ai commencé à apprendre le russe. J'ai fait des stages à Saint-Pétersbourg pour apprendre la langue. Effectivement, c'est la première entrée en matière dans un pays, pouvoir communiquer un minimum avec les gens, même sans parler couramment, avec un bon dictionnaire, ce qui peut être fort utile, hein, même pour se défendre contre les Russes embêtants, un coup de dictionnaire sur la tête. Donc ça, c'est multifonction un dictionnaire.
Alors justement, il y a ce mot qui revient toujours quand les Russes vous rencontrent. Voilà. Ils vous disent toujours Adna,
oui, alors ça veut dire une, ça veut dire aussi seule. Effectivement, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup quand j'ai voyagé en Russie. Elle me regardait avec des yeux un petit peu ébahis. Voyager
toute seule.
Ça a étonné beaucoup les gens, puisque la plupart des gens qui voyagent, notamment en transsibérien, c'est par obligation, pour des raisons professionnelles ou familiales. Donc quand je leur disais que je traversais le continent toute seule pour aller en Chine, ils me regardaient
Si vous voulez faire marrer un Sibérien en Russie, vous lui dites « Do you speak English ?» Le mec, il part dans un éclat de rire. Il ne voit pas pourquoi il parlerait russe, anglais.
Mais est-ce que vous vous sentez du coup comme une aventurière, Katia Astafiev, le fait de voyager seule, être une femme, est-ce que
Alors, entre deux, oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Hein, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager ou qui voyagent peu ou en voyage organisé ou même en couple, en famille, enfin, je passe vraiment pour la grande aventurière qui part toute seule comme ça, comme une grande, qui n'a pas peur et tout. Donc, effectivement, les gens sont un petit peu épatés. Mais dès qu'on voyage un petit peu, on en rencontre plein, hein, des femmes qui font le tour du monde, qui partent 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus. Donc, finalement, je suis une semi-aventurière.
Oui. Je dois dire qu'on part rarement seul parce qu'on a peur au début. Ça me paraît légitime. Celui qui me dit « moi je suis parti seul de but en blanc », j'ai beaucoup de mal à le croire. Puis après on se sépare du copain, de la copine, et après on s'aperçoit que seul, il se passe beaucoup plus de choses.
Parce que votre devise à vous, André Brugiraud, dans le livre, elle est écrite en grand, c'est « se débrouiller seul et compter sur l'autre ». J'aime bien le deuxième, ça, c'est une formule qui me plaît bien.
Oui, c'est le Jérôme qui a écrit ça, mais effectivement, il faut croire en sa chance aussi, oui.
Oui. C'est-à-dire la chance d'aller, des rencontres qui vous emmènent dans des endroits où vous n'aviez pas forcément prévu au départ. Comment ça
J'avais rien prévu, moi ça s'est enchaîné malgré moi, j'ai obéi à mon destin.
Mais alors comment ça se traduit cette phrase, se débrouiller seul et compter sur l'autre? Comment vous avancez? Le matin vous vous levez?
Il faut avoir confiance en soi. Moi je sais que je suis comme un chat, quand on lance en l'air, je retombe toujours sur mes pattes. Alors ça c'est encourageant.
Mais ça c'est le voyage qui vous l'a appris?
Oui, j'ai appris. La chance sourit aux audacieux. C'est évident. Par exemple, je suis parti en Espagne pour apprendre l'espagnol au temps de Franco, alors ça remonte. Ben, j'avais aucun boulot, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Je suis arrivé là, le premier soir, j'ai trouvé un boulot. Donc la chance sourit aux audacieux, il faut croire en soi. Mais il faut savoir aussi que la plupart des gens sont prêts à aider. Ce que disait Katia, c'est y a des gens merveilleux partout dans le monde. Mmh. Et donc, par contre, je crois que le voyageur doit être indépendant. J'ai horreur de ces émissions de télé qui vont piquer les épis de maïs aux Boliviens en passant, comme les Gengis Khan et compagnie. Non, le voyageur doit être indépendant. Moi, ça m'intéressait d'aller dans les familles, par exemple, parce que moi, je dis que si on a pété dans la cuisine d'une maison quand on voyage, on a manqué le pays, c'est la pièce au fond. Seulement, y aller de façon naturelle, pas aller frapper aux portes en Inde, je reviens sur l'Inde, mais alors, on peut bouffer ici, dormir ici. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais dans un jeu naturel, comme par exemple, quand je fais le stop, le gars il me dit « tu viens d'où ?» Je viens de Paris. Oh, tu viens de Paris, mon frère, y aller. Tu ne peux pas venir nous raconter ça à la maison. Il y a un échange qui se produit dans une façon naturelle.
Bon, vous nous raconterez en tout cas comment vous avez fait pour voyager 50 ans en stop, comment vous êtes débrouillé aussi financièrement. Hein, ça interroge beaucoup, beaucoup de gens. Comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps sur la route en travaillant ou pas, en rencontrant les gens ou pas. Vous allez nous raconter ça. Il y a tout dans votre livre, en tout cas Le Monde et Mon Pays aux éditions City. Ça, c'est le dernier livre. Et avec nous, Katia Astafiev, comment voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse. C'est aux éditions du Trésor. Vos questions, les voisins, les voisines, pour dans 3 minutes après le flash, au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook.
Et si le temps d'un...
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre. On voyage aujourd'hui, mais on voyage en solo, et oui, tout seul. De quoi vivre l'aventure avec un grand A. Ça fait peur à certains quand même, il y en a qui n'osent pas encore franchir le pas. André Brugiroux le disait, c'est normal au début, ça fait peur de se lancer comme ça dans le vide. Mais voyager seul, eh bien c'est quand même quelque chose qu'on fait de plus en plus souvent. Et c'est quand même souvent la promesse de faire de belles rencontres. Alors quels sont les avantages, les risques aussi? Et au final, quelles sont les expériences qu'on fait sur la route en solitaire? On en parle avec nos deux baroudeurs, un baroudeur en chef, André Brugiroux, donc l'homme qui a vu tous les pays du monde, 400 000 km autour du monde et en stop pendant 50 ans. Votre dernier livre, Le Monde et mon pays, aux éditions City. Et en face de vous, donc une femme, Katia Astafiev. Elle est petite, blonde et aventureuse. Ça fait partie du titre de son dernier livre, Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse, aux éditions du Trésor. Katia, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre quand on voyage seul ?
Difficile. C'est rarement difficile, en fait.
C'est que de la joie, des bonnes surprises.
Voilà, après, oui, ça peut être des... Mais c'est surtout des petites mésaventures, surtout que je raconte dans mon livre. Hein. J'ai des textes un peu rigolos, par exemple, comment camper dans le Connemara quand on a une cystite, enfin, le genre de choses dont personne ne va vous parler. C'est vraiment des petites galères qui peuvent arriver à une femme. Voilà, mais c'est vraiment des petites choses où c'est se perdre, être dans un coin un petit peu perdu, sans savoir où on est, où on va aller, où on va dormir le soir, où on va manger. Des fois, on est sur des préoccupations un petit peu basiques. Hein. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Enfin, voilà.
Mais ça, c'est des petits imprévus qui font partie du voyage. Voilà, parce que s'il n'y a pas ça dans le voyage, à quoi ça rime?
Voilà, mais c'est vraiment des petites choses. Hein. Généralement, vraiment l'avantage, effectivement, de voyager seul, c'est ces rencontres qui sont beaucoup plus faciles. Hein. On se force peut-être, ou on va plus naturellement vers les autres, et les autres viennent aussi plus naturellement vers nous. Donc, c'est plus propice aux rencontres.
L'aventure, ça existe encore, André Brugiroux?
Je me souviens d'un hippie, quand j'étais chez les hippies à Haight-Ashbury, dans les années 50, 60. Là. Et il m'avait dit, alors, les cheveux longs, la marguerite, le joint et tout ça. Quoi. Alors, il me fait, hey man, cool. Il disait, déjà cool, ils étaient en avance, les hippies. Il me dit, moi, je peux pas me perdre. Il tire sur son joint, puis il me fait, parce que je sais pas où je vais. Il y avait de l'idée là derrière. Je voulais connaître leur philosophie, j'ai connu.
Mais c'est un peu ce qui vous arrive, André Brugiroux. C'est vrai que l'aventure, ben vous la vivez tout seul. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous qui voyagez depuis plus de 50 ans, est-ce qu'aujourd'hui, cette aventure, elle est toujours possible quand on voyage seul, alors qu'on connaît tous les
ouais,
nouvelles technologies de communication?
Moi, je suis chez moi partout. Hein. Ouais. Moi, je débarque partout, je suis déjà venu. Alors, je suis chez moi. Le monde et mon pays, c'est pas qu'une formule de titre de livre, c'est ma réalité. Mais... moi, je sais pas, je suis mal placé pour parler de ça parce que je suis pas un vrai voyageur, moi. Je me considère plus comme un étudiant. Et ce que j'ai fait dans cette vie sur la route, quand même, c'est d'être... J'ai voulu me concentrer sur mon étude. Et c'est ça, pour ça que j'étais seul, pour apprendre. J'ai voulu... Ce qui me fait planer, moi, c'est d'apprendre, de comprendre. C'est ça qui me fait planer.
Mais ce qui est impressionnant, c'est que votre père, votre mère ou autre n'avaient pas forcément voyagé. Vous êtes auvergnat. Votre père s'est dit travailler à la SNCF.
Jamais sorti du jardin. Son horizon s'arrêtait au bout du jardin, j'ai dit dans mon premier livre. Chacun son inspiration, d'ailleurs, mais c'était pas la mienne.
En tout cas, votre mère, elle vous a poussé dans cette aventure. Quand vous décidez, en fait, à 17 ans, vous partez, vous avez 10 francs en poche, ouais. Et vous revenez quand même 18 ans plus tard.
Oui, ça, j'avais pas prévu le coup, hein, quand même.
Ouais, c'est ça. Comment ça s'est enchaîné?
Tout s'est enchaîné malgré moi. Moi, j'avais le rêve de voir le monde, mais on ne tient pas une vie sur un rêve. Ensuite, il faut être motivé. Alors moi, j'ai une motivation qui est toujours là, comme à 17 ans. C'est une insatiable curiosité d'esprit. Dès que je vois une colline, je veux voir ce qui est derrière. Il y a des jeunes, je leur dis, t'as vu la colline? Bon, ils ne voient pas. Je dis, maudit niaiseux, tu ne vois pas qu'il y a une colline devant ton nez? Non, ils ne la voient pas. Donc, il y a la curiosité d'esprit. Mais dans mon cas, moi, il y avait un espèce de... J'aime pas les grands mots, mais c'est ça, en fait. Il y a eu un espèce de destin qui m'a tiré pour répondre à cette question. Est-ce que la paix est possible? C'était ma quête ou mon enquête, alors, sous-jacente inconsciente. Alors, au début, j'ai pas dit à mon père, à 17 ans, ciao. Je reviens dans 18 ans, je vais voir si on peut faire la paix. Mais pas du tout. On m'aurait dit que je faisais ça, j'aurais pas cru. Et si je suis rentré au bout de 18 ans, c'est en plus parce que j'étais malade, j'avais une dysenterie pas soignée, je faisais le tour de ma taille avec mes doigts. C'est pas tout à fait normal, j'étais à quatre pattes. Les choses se sont enchaînées, j'ai dit à mon père, je vais aller apprendre l'anglais. Et je vous signale, faites gaffe que Saint-Pierre ne soit plus qu'en anglais maintenant. Mettez-vous à l'anglais, hein. Sinon c'est l'enfer. Et au début, j'avais fait par mes gardes l'école hôtelière avant, et donc j'ai pensé apprendre l'anglais. Puis comme j'ai vu que je pouvais l'apprendre sur place, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas l'allemand, pourquoi pas l'italien. J'ai travaillé 2 ans dans chaque pays, je me suis parachuté en faisant des petits boulots, que moi j'appelle surtout petite paye. Et ensuite, je voulais apprendre le russe, je l'ai dit, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Et après, j'arrive au Canada pour refaire un peu d'anglais. Et là, j'ai découvert un truc en 65 que je ne savais pas. À nouveau, il n'y avait pas les guides de retard, les renseignements d'aujourd'hui, il n'y avait pas le père Google. C'est qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Ou disons, la différence entre le coût de la vie et les salaires est plus large, ce qui permet d'économiser plus vite. Et là, j'ai compris qu'enfin, je pouvais économiser et réaliser mon rêve. Et le stop dont on parle, les 400 000 km, c'est à la fin des 18 ans d'absence du premier voyage entre 67 et 73, pendant 6 ans. Tous les jours, je sortais mon pouce sur toutes les routes du monde en dépensant mes économies du Canada au compte-gouttes, à l'époque, le dollar par jour. Et c'est très bon pour la ligne, on ne voit pas la radio, mais très mauvais pour l'estomac.
En tout cas, vous avez frôlé plusieurs fois la mort, hein, ce qu'on voit dans votre livre. Alors racontez-nous, bon, il y a eu l'Afghanistan, vous avez eu une baïonnette entre les yeux.
Non, mais c'est ça, mais moi, si je suis là, c'est un miracle, je suis un miraculé. Parce qu'il y a le mot, il y a des gens qui ont de la chance, mais donc du coup, j'ai cherché pour moi, il n'y a pas de mot. La protection divine, la baraka, une bonne étoile, tout ça, c'est trop faible. Il n'y a pas de mot pour moi. Et par exemple, quand on a parlé de Charlie Hebdo, les fameuses Kalachnikovs, là, je veux dire un truc, une fois, moi, c'est pas la télé que je les ai vus, c'est dans mes côtes. Je me suis payé une baïonnette en Afghanistan entre les deux yeux au pied des Bouddhas qui n'existent plus. Il y a un avion de chasse américain qui m'a éclaté à 50 mètres devant moi. Ça paraît comme dans des films. Et je ne sais pas comment j'en suis ressorti vivant. Sans compter les troupeaux de buffes qui me chargent. J'ai foutu la main sur un crocodile. Et il y en a, je peux vous en raconter. Mais j'ai une protection. Et ma mère, en fait... Je veux dire un truc qui va peut-être surprendre les auditeurs, mais ma mère est décédée avant le stop. Je ne veux pas dire tant mieux, mais si je suis vivant, je crois que je ne vois pas d'autre raison que sa protection à elle, parce qu'elle aurait aimé faire le tour du monde, j'ai réalisé son rêve à elle. Et elle m'a donné le plus beau cadeau pour voyager, parce qu'elle m'a élevé sans préjugés de race, de classe, de nationalité, de croyance. Et ça, ça change le voyage.
Ouais, elle vous dit toujours, profites-en tant que tu peux.
Oui, c'est ça qu'elle
dit. Et vous en avez profité.
Oui, elle m'a protégée, elle me protège toujours.
Elle vous protège encore. Alors, on va prendre tout de suite Fataou, qui nous appelle de Parakou, au Bénin. Bonjour, Fataou.
Oui, bonjour, Sandrine.
Alors, merci d'être avec nous sur RFI. Donc, vous avez composé le 33 1 84 22 71 deux fois. Et vous aussi, vous voyagez presque toujours seul. Racontez-nous, Fataou.
Oui, merci Sandrine. Moi, j'ai presque voyagé seul tout le temps, sans grand souci. Mais pour la plupart, à l'intérieur de mon pays, le Bénin. Cependant, il y en a un de mes voyages qui m'a marqué et dont je n'oublierai jamais. En effet, il y a de cela 5 ans, j'ai fait une tournée dans la partie nord-est de mon pays. Pour ceux qui connaissent bien le pays, c'est dans la zone de Kalalé. C'est une zone de forêt. J'étais à moto et donc j'avais pris le risque de passer par une piste très peu pratiquée par les hommes. Arrivé en pleine forêt, l'engin était tombé en panne.
Donc vous êtes au milieu tout seul avec votre moto, au milieu de la forêt, complètement perdu.
Oui, effectivement. Mmh. Alors qu'il était impossible impossible de traîner la moto toute seule. Donc, j'étais obligé de rester là jusqu'à la tombée de la nuit. Et malgré toute la peur d'être dévoré peut-être par un animal sauvage ou même d'être braqué par des malfrats. Et par chance, autour de 19h par là, un jeune peul passait. Celui qui m'avait donc aidé, et il m'avait transporté et moi et mon engin chez lui. Ensuite, il m'a hébergé, nourri, puis le lendemain, il m'a aidé à trouver solution à la panne de ma moto. Et comme vous le voyez, c'est une expérience que moi je juge unique de ma vie. Et car ce jeune, tel que je vous l'ai dit, il est devenu aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Voilà.
C'est une belle histoire parce que c'est le destin là, qui vous a amené cet homme au milieu de nulle part dans cette forêt, qui vous a sauvé presque la nuit et qui vous a sauvé la vie aussi peut-être. Et vous ne pouviez pas le prévoir et donc ça a été une très très belle surprise et cet homme est arrivé vers vous. Merci beaucoup hein, Fatahou pour ce témoignage. Des exemples comme ça, Katia, est-ce que vous en avez eu effectivement ce destin, ces rencontres improbables qui arrivent alors qu'on a vraiment besoin de quelqu'un mais on ne sait pas comment.
Alors, j'ai jamais été vraiment en danger, en fait. Hein. Donc, effectivement, je ne pense pas que j'ai eu des sauveurs qui m'ont sauvé la vie, mais je me suis déjà retrouvée dans des situations pas très rassurantes. En Mongolie, par exemple, assis sur des fusils avec trois inconnus au milieu de la steppe, à me dire comment ça va se terminer tout ça. Et en fait, c'était une fausse frayeur, puisqu'à la fin, j'étais avec une petite américaine rencontrée là-bas. On s'est demandé où ils nous emmenaient. Puis au final, ils nous ont redéposés dans notre petit camp de yourte au milieu de nulle part. Après, une grosse frayeur. Et en fait, c'était des tueurs de marmottes, donc comme on ne semble pas trop des marmottes, ça c'est bien fini.
Mais c'est une belle histoire, celle de Fatahou, André Brugereux, vous en avez eu beaucoup, des comme ça, ces hommes providentiels qui viennent.
Oui, il y a toujours l'homme providentiel, il y a toujours ceux qui donnent le coup de main. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je crois que la plus grande chose qu'on peut rapporter du voyage, ça va peut-être vous faire sourire, c'est de ramener soi-même sain et sauf, de rentrer sain et sauf. C'est ça qu'on... La grande chose qu'on peut rapporter du voyage, parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de conflits, de trucs. Il y a une part, oui, une part de chance. Moi, je connais des gens qui se sont fait tuer en voyage, qui ont eu des accidents et tout ça. Oui. Ça, il faut...
Ça dépend où on part. Il y a aussi énormément de pays où il n'y a pas plus de risques que ça, où ce n'est pas forcément plus dangereux qu'en France. Hein, dans certains,
non, mais
dans
les
un
gens
certain
sont
nombre les... de destinations, ça peut se passer très bien. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et finalement, non, il y a toujours des gens qui vont donner
les gens
des
sont les gens.
Et...
Les gens sont les gens partout. Oui. Tous les gens ont un cœur et des sentiments. Oui. On connaît tous la joie et la peine, on se rejoint tous. Il n'y a qu'une espèce humaine, les gars. Oui. Il n'y en a qu'une. J'en ai vu qu'une, en tout cas, moi. Mon premier livre disait « La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens ». C'est ça la vérité vraie qu'il faut comprendre. Oui. Et moi, je fais confiance aux gens. Ça ne veut pas dire que je laisse traîner mon portefeuille au milieu de la rue. Mais je fais confiance d'abord.
Alors, en voyageant solo, les voisins, les voisines, avec nos voyageurs, donc qui continuent de partager leurs expériences, on ira à Buenos Aires après Saudade de Magic System.
So that there's not the lots of the clown. So that there's not the lots of the clown. Caminho passa também. Quem mostra Deus caminha longe. Quem mostra Deus caminha longe. Esse caminho passa também. Saudade. Deus na terra.
Voyager seul, les voisins, les voisines, beaucoup choisissent de le faire en Amérique du Sud. C'est un continent qui attire, hein, le Chili, le Brésil ou encore l'Argentine. Et la région d'ailleurs augmente en termes de tourisme hein, chaque année. Et cette année encore, l'année dernière, ils ont fait plus 4%. Et donc nous avons Aude Villiers-Moriamé. Bonjour.
Bonjour Sandrine.
Alors vous êtes la correspondante de RFI à Buenos Aires, donc la capitale de l'Argentine. C'est une destination très prisée hein, des voyageurs en solitaire. Et c'est souvent là en fait qu'on atterrit, hein, qu'on commence le périple sur le grand continent sud-américain.
Et oui, Buenos Aires, c'est pour beaucoup de voyageurs la toute première étape. Pour ceux qui se lancent tout seuls dans un périple à l'autre bout du monde, c'est une option de départ plutôt rassurante. C'est en tout cas ce que me disait Mathilde, une Française de 23 ans. Elle vient tout juste de commencer son voyage en Amérique du Sud. Et pour elle, Buenos Aires fait un peu figure de transition entre l'Europe et l'Amérique latine. Moins effrayante que d'autres grandes villes de la région, comme Rio de Janeiro, et plus familière, car l'Argentine est très marquée par l'immigration européenne massive qu'elle a connue au XXe siècle. Aujourd'hui, un Argentin sur deux a des origines italiennes. Mathilde me disait d'ailleurs qu'elle retrouvait beaucoup de Naples et de Rome à Buenos Aires. Une entrée en matière un peu plus douce, si vous voulez.
Et alors, une fois atterri à Buenos Aires, est-ce qu'il y a un parcours assez classique pour les voyageurs dans le sud ?
Alors, les itinéraires varient bien sûr, mais on retrouve souvent le même parcours. Après Buenos Aires, le voyageur solitaire grimpe vers les chutes d'Iguassu, l'une des sept merveilles du monde, avant de gagner Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine, une région connue pour ses déserts, ses cactus et ses montagnes colorées. Après cela vient souvent la Bolivie, une étape qui peut se révéler un peu plus difficile pour ceux qui voyagent en solo. Clara, une jeune Allemande, a dû se confronter par exemple à des soucis de santé et de transport. Elle m'a avoué qu'elle aurait bien aimé quand même être accompagnée par des amis durant cette partie du voyage. Une fois remise sur pied, elle a ensuite gagné le Pérou et visité le fameux Machu Picchu avant de rentrer en Allemagne. Mais certains ne s'arrêtent pas là et poursuivent leur voyage jusqu'en Colombie. Le pays est un peu devenu la nouvelle destination à la mode. 2 500 000 personnes l'ont visité l'an dernier, soit une augmentation de 12% par rapport à 2014.
Aude, est-ce qu'on peut dire que ceux qui parcourent l'Amérique du Sud ont un profil particulier ?
Eh bien, ce sont souvent des jeunes, la vingtaine ou la trentaine, pour la plupart des Européens et des Américains. En Argentine, ils représentent la proportion la plus importante de touristes étrangers en dehors de ceux venus d'autres pays d'Amérique du Sud. De ce que j'ai pu constater, beaucoup de ces voyageurs en solo partent dépaysés après avoir vécu un événement difficile, une rupture dans le cas de la Française Mathilde ou un licenciement dans celui de Matt, un Américain de 29 ans. Chacun a pris toutes ses économies et a décidé de partir à l'autre bout du monde, se changer les idées. Pour Mathilde, ce sera 3 mois de voyage. Matt, lui, ne s'est pas fixé de date de retour. Il a acheté une moto à Buenos Aires, avec laquelle il compte bien parcourir toute l'Amérique latine jusqu'à remonter un jour au Texas.
Merci beaucoup, Aude Villiers-Moriamé, donc correspondante à RFI en direct de Buenos Aires. Et là, on retourne à Paris. Pourquoi partir seul à l'aventure, André Brugirou ? Donc, votre premier voyage remonte à 1955. Là, c'est vrai que la société ne voyageait pas du tout à cette époque. Mais alors, comment vous avez réussi à tenir le coup financièrement pour vous déplacer et vivre dans autant de pays, 400 000 kilomètres.
Surtout que je suis parti avec 10 balles en poche. Papa, il n'avait pas un rond. Il était ce qu'on appelait, il travaillait à la SNCF, il nettoyait les wagons, il avait 9 triages. Il était au minimum vital, qu'on appelait à l'époque, élégamment. Donc, je suis parti sans argent. Il faut dire que, là, je parlais de chance tout à l'heure, la chance a commencé dès le premier jour. Parce que moi, étant à l'école hôtelière, même en avance, je voulais apprendre l'anglais. Et je ne savais pas comment faire, je n'avais aucune aide. Et il s'est trouvé que cette année-là, pour la première fois de son existence, l'école hôtelière de Paris a inauguré un stage à l'étranger. Et donc, j'en ai profité, prenais les 3 premiers. Moi, j'étais une bête à étudier, j'étais le premier. Donc, j'ai pu y aller comme ça. Ça a commencé là, la chance. Et je me suis aperçu que je pouvais apprendre l'anglais et travailler sur place. Après, j'ai dit, pourquoi pas l'espagnol ? Là, je me suis parachuté en Espagne au temps de Franco. J'avais aucun boulot, j'avais des sandwichs pour résister 4 jours dans mes poches. Ensuite, l'Allemagne, l'italien, bon, tout ça, j'ai fait des petits boulots. Mais ça, c'est petite paye. Mais le but était d'apprendre les langues. Et c'est au Canada, j'ai dit tout à l'heure, je voulais apprendre le russe, je n'ai pas pu y aller, pas de visa. Et donc, j'ai atterri au Canada pour refaire de l'anglais. Et à Toronto, je me suis aperçu à l'époque, dans les années 60, qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Je ne le savais pas. Ou disons, c'est ça qui est intéressant, la différence entre le coût de la vie et les salaires était plus large, ce qui permet d'économiser plus vite. Là, j'ai enfin compris, après toutes ces années d'apprendre des langues, que je pouvais économiser pour mon rêve qui était toujours derrière la tête. Et avec 3 ans d'économie à Toronto, j'ai tenu 6 ans sans travailler, de 67 à 73.
C'est-à-dire que vous voyagez vraiment pas cher, on peut le dire. L'hôtel, combien ?
Moi, il y a 3 mots qui sont interdits quand je voyage, c'est les 3 mots que les voyageurs sautent dessus. Interdit l'hôtel, interdit le restaurant, interdit le taxi. Les gens, quand ils voyagent, ils pensent à ça d'abord. Eh ben, je vous signale que si vous interdisez tout ça, ça coûtera moins cher.
Mais alors, vous dormez où le soir ?
Moi, je dors dans mon duvet. Qu'est-ce qu'il faut pour dormir ? Je vais vous dire. Avoir sommeil. Donc, pas d'hôtel. Mais c'est facile à dire. Seulement quand il fait moins 45 en Alaska, quand on ne va pas à l'hôtel, on risque sa vie. Là.
Alors, vous faites comment ?
Ah ben, il faut compter, je suis le bon Dieu. Là.
Bah, le bon Dieu, ça va. Vous n'allez pas dormir dans le ciel, donc...
donc oui, il y a une part de chance.
Donc vous dormez chez les gens, vous profitez aussi de l'accueil des habitants.
Par moins 45, on ne peut pas rester dehors. Oui. On ne peut même pas faire du stop dehors. J'allais d'un point chaud à un point chaud, d'un garage à un café. Et pour dormir, il fallait que je trouve un point chaud et dans les 5 minutes, sinon je me retrouvais chez Findus, rayon surgelé. Donc,
vous dormiez où alors? Chez les pompiers, à la mairie?
Alors voilà, moi j'allais pas embêter les gens, ouais. Mais je savais qu'en Alaska, par exemple, où c'est interdit le stop en hiver, si un particulier refuse l'entrée, on peut le faire condamner par la justice parce qu'il vous condamne à mort. Mais je n'embêtais pas les gens. Moi j'allais dans les trucs collectifs, comme vous dites, les pompiers, les alcooliques anonymes, manque de peau, ils ne me prenaient pas, je ne buvais pas. Il y a le welfare, les trucs sociaux, il y a l'église, les chapelles, mais en général, bon Dieu n'est pas là, c'est fermé. Les autocars, il y a un tas de trucs collectifs où on peut aller. Et c'est comme ça. Moi, j'ai jamais à l'hôtel. Mais quand. Bon, mais au début, à 3h de l'après-midi, j'avais peur. Où je vais dormir ce soir? Et puis, je me suis aperçu qu'à 9h, j'étais pas au même coin. J'ai dit, arrête, Coco, de te paniquer. Tu te paniques à 9h. Puis après, j'étais tellement entraîné qu'à la fin, j'y pensais même pas. Puis à 9h du soir, quand j'avais sommeil, j'avais l'œil clinique pour repérer le coin. Mais j'ai passé quand même quelques nuits épiques, il faut le dire.
Effectivement, c'est une technique.
Et donc le dollar s'explique pour deux raisons majeures. Une, j'ai pas payé le transport, j'ai tout fait en stop. Mais le problème du stop à travers le monde, c'est que les deux tiers de la Terre n'est pas de la Terre, c'est de l'eau. Il y en a un qui marche sur l'eau, mais pas moi. J'ai dû faire du bateau stop, du voilier stop, de l'avion stop. Donc, pas d'hôtel, zéro pour dormir, zéro pour le transport. Et mon dollar allait tout dans la nourriture, mais là... Pas de restaurant parce qu'on paye le service, c'est normal. Moi, je mangeais dans les marchés, les carrioles de bord de route, et puis il se passe un tas de trucs quand on voyage. Et donc, ça explique ce dollar. Il faut aussi, je vais terminer là-dessus, mais il faut comprendre que faire des tours du monde, c'est le privilège des pays industrialisés. Je n'ai pas dit civilisés, industrialisés. Et donc, ce n'est pas le tiers-monde qui peut s'offrir des routards ou des hippies, c'est un produit de luxe. Donc, mais les gens dans le monde, même s'ils ne peuvent pas voyager, ils ont envie de connaître les autres. Et leur façon de connaître à eux, c'est de pouvoir inviter le gars qui a le temps de partager. Pas celui qui passe dans le bus climatisé, fermé à double tour à cause des moustiques et des autochtones. Mais un gars comme moi qui sifflote dans leur quartier soi-disant dangereux. « Eh mon frère, où tu vas comme ça ?»« Eh ben moi, je fais le tour du monde. » »« Ah, tu fais les contours du monde, tu as pas mal aux pieds, toi. » Et c'est parti.
C'est comme ça que vous engagez la conversation. Alors, Katia...
juste une seconde, je termine.
Non, on va finir avec Katia, parce qu'elle est femme quand même. Il y a beaucoup de femmes aussi qui hésitent avant de partir. On le disait, peut-être la peur au ventre. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, vous, à ces femmes qui n'osent peut-être pas et quelque chose qui pourrait déclencher peut-être
c'est idiot, mais si vraiment c'est une envie, après c'est pas une obligation de voyager seul, il faut que ce soit effectivement un souhait, un rêve, et puis aller au bout de ses rêves si on a envie d'aller quelque part. Et puis effectivement, ça peut réserver que des bonnes surprises, le voyage. Je pense souvent à l'exemple de la Russie où j'étais très surprise de voir les hommes d'une galanterie incroyable. J'ai jamais porté mes bagages une seule fois. Des gens de tout âge, que ce soit un homme d'affaires, un militaire, un gamin de 12 ans, un russe à moitié pompette, tout le monde venait tout le temps m'aider à faire mon lit dans le train, porter mes bagages. Enfin,
mais est-ce que vous préparez minutieusement vos périples ou vous partez plutôt à l'aveugle comme
Je prépare très peu en fait. Je prends un billet d'avion une nuit en arrivant et après je me débrouille un petit peu. J'essaye aussi d'éviter les hôtels. Alors il y a les auberges de jeunesse qui sont une première entrée en matière. Ça permet de rencontrer éventuellement d'autres voyageurs, d'avoir quelques contacts. Après ça a ses limites aussi parce qu'on rencontre souvent tous les gens de tous les pays du monde sauf du pays dans lequel on se trouve. Il y a des facilités aussi maintenant comme le couchsurfing, donc des réseaux sociaux où on peut aller dormir chez l'habitant, prendre des contacts avant. Et puis se retrouver dans des quartiers aussi pas du tout connus, pas du tout touristiques, où on se retrouve avec des gens qui ont aussi envie de découvrir l'autre. Et c'est peut-être plus facile qu'effectivement de demander aux gens dans la rue comme ça.
Enfin, mais côté sécurité, est-ce que vous avez une technique particulière? Vous partez avec une bombe ou vous savez faire du self-défense?
Non, je ne sais rien faire. Parce que je suis toujours en plaisantant. Hein, je mesure moins d'1m60. J'ai du mal à porter un sac à dos de plus de 10 kilos et j'ai peur en mobylette. Donc voilà, je ne suis pas l'exemple de la l'aventurière prête à se battre dans toute situation. Non, je pense que c'est vraiment du bon sens. Et puis, voilà, il n'y a pas... Se renseigner un tout petit peu sur le pays, bien sûr, mais non, il n'y a pas
André
de problème.
je voudrais dire que quand on voit Sandrine, on n'a qu'une envie, c'est de la protéger.
Quand on voit Katia,
ça doit aider. Non, mais
elle a pas l'air si fragile.
Elle a un côté, on a envie quand on la voit. La première chose qu'on a envie, c'est de l'aider, de la protéger. Moi, je voudrais dire que le succès pour bien voyager, je pense que Sandrine sera d'accord. Katia sera d'accord. C'est, je vais citer Gilles Vigneault. Il a une chanson. Il chante. Il faut dormir le cœur ouvert. Il est un peu bébête. Quand on dort, on est conscient de rien. Alors, tu peux dormir le cœur fermé, ça change rien. Mais je dirais, pour que ça marche, il faut voyager le cœur ouvert. Voilà la clé du...
Alors vous parlez de sommeil, justement, c'est une belle phrase, mais il y a Baïdi de Dakar qui nous dit « Moi, je suis un grand dormeur, c'est pourquoi je ne voyage pas en solo, j'ai peur qu'on m'agresse ou qu'on me vole mes affaires pendant mon sommeil. »
Oui, mais moi, j'ai par exemple mon sac à dos quand je couchais dehors, j'avais un lacet de chaussures, alors que je n'ai jamais eu de chaussures à lacet, j'avais des mocassins. Mes plus grosses chaussures de marche, c'est des mocassins. Mais j'avais un lacet de chaussures, pourquoi ? Pour attacher à mon poignet la nuit et attacher à mon sac. Comme ça, quand on piquait le sac, et ça arrivait plusieurs fois, le gars, il ne pensait pas que c'était attaché au poignet du gars. On me tirait le poignet, on tirait le bras, au bout du bras, il savait le bonhomme. « Eh, où tu vas ? Ramène-moi ça. » Eh oui, il faut faire attention. Et puis mettre les poches, le sac, il faut mettre les sacs vers les poches, vers le bas. Parce que les poches en l'air, il y en a qui sont capables de vider les poches.
Ah, qui se servent dedans pendant que vous dormez. Alors que...
Moi, je ne sais pas si je peux raconter une anecdote.
Allez-y, une dernière anecdote.
Le plus beau que j'ai vu, c'est... La plus belle histoire, c'est un Canadien en Inde. On vient en Inde, là. Et en Inde, il y a du monde. Hein. Et alors, c'est dur de trouver un endroit désert. Et le pauvre, et au bord de la mer, il fait très chaud, c'est tropical, on transpire dès qu'on fait 50 mètres. Il arrive sur une plage, il voit personne. Incroyable. Une plage en Inde où il n'y a personne. Alors, le gars, il va au milieu de la plage, il se fout à poil, il met toutes ses affaires sur le bord de la plage et il nage tranquillement, il fait 100 mètres dans l'eau. Il se retourne pour revenir, qu'est-ce qu'il voit ? Un Indien qui arrive tout vers ses affaires. Et lui, il nage à toute vitesse, mais on va plus vite à pied qu'à la nage. Sous ses yeux, tout a disparu. Il est ressorti comme Adam, là, à poil. Alors je lui ai dit, quelle est la première chose que tu as faite ? Il dit, j'ai cueilli une feuille de bananier.
Il ne restait plus que ça pour continuer son aventure. C'est un peu comme l'épisode de Nu et culotté.
Il faut un peu de bon sens. Je crois que pour une fille comme pour un gars, d'ailleurs, quand on voyage, seul ou pas seul, d'ailleurs, il faut un petit peu de bon sens.
En tout cas, il vaut mieux partir seul, parce que si on doit attendre aussi quelqu'un, pour beaucoup, on ne serait pas parti non plus. Donc, c'est aussi l'occasion de se débrouiller toute seule et d'aller au bout de son rêve. Merci beaucoup, Katia Astafiev. Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse aux éditions du Trésor. Et à vous, André Brugiro. Merci d'avoir participé, d'avoir raconté cette vie de voyageur. Votre dernier livre, Le Monde et mon pays, aux éditions City. Très bonne soirée à tous. Demain, on se retrouve. Vendredi, c'est éducation avec des lycéens sans papier et le réseau Éducation sans frontières qui se bat pour régulariser ces jeunes. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.